Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, la religion de la République. Bonjour Arnaud Tessier.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez été le collaborateur de Philippe Séguin, notamment à l'Assemblée nationale. Vous lui avez consacré une biographie. Philippe Séguin, Le remords de la droite, publié l'an dernier aux éditions Perrin. On vous doit également des biographies de Richelieu, de Charles Péguy ou encore de Louis-Philippe. Alors si la République était un plat, on pourrait dire d'elle qu'elle n'est pas du genre compliqué, car on peut l'accommoder à toutes les sauces et on ne s'en prive pas. Les valeurs républicaines sont convoquées pour parler d'intégration, de citoyenneté, de lutte contre la radicalisation, de formation des jeunes esprits. À ce titre, elle fonctionne presque comme une incantation, une forme de pensée magique qu'il suffirait de déployer pour se mettre à l'abri. Mais elle est aussi un label que s'approprient les formations politiques. Récemment, on a vu l'UMP se transformer en Les Républicains et la formation de l'actuel chef de l'État promettre une République en marche. Ce qui est une manière de dire peut-être que ceux qui n'en revendiquent pas le terme ne sont peut-être pas de si bons républicains qu'ils en ont l'air. Sans oublier bien sûr le Printemps Républicain, association qui milite de manière controversée pour la promotion de la laïcité dans la vie politique. Le républicanisme est donc largement répandu, mais sommes-nous bien sûr aujourd'hui de ce que cela signifie que d'être républicain? Et n'y a-t-il pas le risque, à force d'en convoquer les valeurs sans jamais vraiment les interroger, de produire un catéchisme républicain? Alors la religion de la République, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Arnaud Tessier. Alors il ne vous aura pas échappé en tant qu'historien que nous sommes en 2018 et que nous allons fêter d'ici quelques mois le 60e anniversaire de la 5e République. Est-ce que la République, Arnaud Tessier, c'est une forme institutionnelle qui est aujourd'hui extrêmement solide?
Oui, je crois que la République, en tant que régime, si on la définit ainsi, c'est quelque chose qui est parfaitement, et depuis plusieurs décennies, depuis même, je pense, la fin du 19e siècle, complètement inscrite dans les mœurs. Maintenant, ce qu'il y a derrière la notion de République et de républicain, c'est beaucoup plus confus. Et d'ailleurs, de manière générale, lorsque vous introduisez le mot de valeur, on entre dans une sorte de marécage où plus personne ne se repère. Parce que les valeurs, je préfère le terme de principe, et puis les principes, ils sont toujours adossés à des faits, à des institutions, à des choses concrètes. Je crois que c'est ça qu'il faut souligner.
Alors je vous propose quand même d'aller justement, d'entrer dans ce marécage, parce que c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de République, on pense peut-être moins spontanément aux institutions qu'à ces principes ou à ces valeurs qui leur seraient associées. Ça a été le cas par exemple la semaine dernière. Elles ont été convoquées, ces valeurs républicaines, dans le cadre du plan de lutte contre la radicalisation qui était présenté par le Premier ministre Édouard Philippe. C'était à Lille.
Au-delà de la lutte contre une radicalisation violente qui a conduit aux attentats terroristes qu'on a connus ces dernières années, ce nouveau plan gouvernemental se penche beaucoup plus qu'avant sur la prévention, notamment dans les écoles, pour lutter contre les petites atteintes aux valeurs de la République et à la laïcité. Ces remises en cause des valeurs de la République ont bien souvent un lien avec les croyances religieuses, ce qu'a pu constater le principal du collège de l'Allain, près de la ville de Douai, Jean-Michel Labi.
Un élève de mon établissement, alors qu'il faisait un exercice de grammaire, n'a pas voulu accorder le mot « Dieu ». Il y avait les dieux égyptiens, et on lui demandait de mettre au pluriel. Et il n'a pas voulu parce que pour lui, il n'y avait qu'un Dieu. Il ne pouvait pas le mettre au pluriel, il avait l'impression qu'il aurait un véritable souci avec sa conscience. Donc que faire? Punir? Ne pas punir? Donc j'ai rencontré la famille, on a échangé beaucoup avec elle, et puis la famille a compris qu'au fond, ça ne remettait rien en cause de sa croyance qu'on respectait en tant que telle, mais que l'enfant, faisant cet exercice purement technique, pouvait apprendre la grammaire française sans avoir de difficultés avec sa propre conscience.
Alors, l'extrait du reportage de Stéphane Robert, réalisé la semaine dernière donc à Lille, dans le cadre de la présentation par le Premier ministre de ce plan de lutte contre la radicalisation. Mettre les valeurs républicaines comme rempart à la radicalisation, qu'est-ce que ça vous inspire, Arnaud Tessier?
Là, il y a une certaine cohérence, parce que sous la Troisième République, l'idée de laïcité, qui n'est pas apparue d'ailleurs spontanément sous le terme de laïcité, est quelque chose qui a rejoint les grands principes d'organisation de l'État en France et de la République. Cette idée que la République garantit le libre exercice des religions, mais que les religions ne doivent pas interférer avec les conduites des affaires de la France, avec les affaires publiques. Et ça, c'est vrai. C'est un principe qui est venu enrichir, si vous voulez, ceux de liberté, d'égalité, de fraternité qui étaient issus de la tradition républicaine plus classique. Ça, c'est un apport de la Troisième République.
Il est venu l'enrichir et peut-être même masquer les autres principes. La devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, est-il besoin de la rappeler? Aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas, qu'elle passe un peu au second plan par rapport à ce principe de laïcité qui apparaît pour certains comme le principal pilier de ce qu'est la République aujourd'hui.
C'est exact. Ça tient aussi à l'actualité et aux problématiques que pose la question du communautarisme, la question de l'islam. Tout cela est assez logique. Mais il y a une dimension de la République qui est occultée de manière beaucoup plus massive. C'est la dimension institutionnelle que j'évoquais tout à l'heure. Parce que la République, c'est la res publica. Et j'irais même jusqu'à dire qu'au XVIe siècle, quand Jean Bodin parle de la République, c'est la souveraineté. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus lourd que simplement des principes ou même des questions d'organisation de la société.
Et comment est-ce que vous expliqueriez, Arnaud Tessier, justement, que ces principes se soient imposés peut-être davantage que la connaissance des principes institutionnels, disons, sur lesquels repose la République ?
D'abord parce que je crois que pendant longtemps, la puissance de l'État en France et la force de structuration de l'État étaient des choses admises et qui allaient de soi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc le problème se pose. Lorsqu'en 1944, à Alger, devant l'Assemblée consultative provisoire, de Gaulle dit « Nous avons choisi la démocratie et la République », il veut dire « Nous avons choisi la démocratie », c'est-à-dire l'élection, la liberté, etc. Et la République, dans son esprit, c'est la reconstruction de l'État, et qui va être effectivement mise en œuvre à la fois en 1944-1945 et ensuite au début de la Ve République, c'est-à-dire l'idée que la France, une et indivisible, notre royaume de France, comme disait Charles Péguy, la République une et indivisible, a pour support premier un État fort et qui est garant de l'intérêt général. Et tout cela, alors que l'État est entré incontestablement dans une crise au cours des années 80-90, tout cela est passé un petit peu par pertes et profits. Et vous remarquerez que cette dimension essentielle de la République, plus personne n'en parle.
Cette crise justement de l'État et de ses principes institutionnels donc qui fondent la République, est-ce qu'elle s'accompagne aussi peut-être d'une crise des valeurs ou des principes républicains, d'après vous, Arnaud Tessier ?
Oui, je pense que si on relit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un texte magnifique, qui était d'ailleurs fait sous la monarchie constitutionnelle, à la fin de la monarchie avant la Révolution, mais qui est devenu ensuite le catéchisme de toute notre tradition républicaine incluse, vous voyez qu'il édicte des principes très importants, qui sont les principes même de notre vie démocratique, mais qu'à chaque fois, il tempère par des considérations d'ordre public, parce qu'il y a derrière l'intérêt général, c'est-à-dire que les intérêts individuels, les valeurs individuelles, les droits individuels sont primordiaux, mais ils doivent par moments s'effacer devant les nécessités d'intérêt général. Et ça, c'est non seulement nos principes, mais c'est aussi la base de notre droit, notre système juridique. En tout cas, c'est resté pendant longtemps, et ça reste, pour une part, un des éléments clés de notre droit en France. Et cela, c'est quelque chose qui s'oublie, parce que la notion d'intérêt général s'est complètement diluée. Les intérêts particuliers sont beaucoup plus organisés, et l'idée qu'il y a un moment où un intérêt public, même s'il paraît injuste à certaines minorités, doit s'imposer, cette idée-là, c'est perdu. Et c'est ça, la République. C'est la res publica, la chose publique.
Alors, je vous remercie d'avoir utilisé ce terme de catéchisme, parce que ça renvoie justement au titre qu'on a choisi aujourd'hui, la religion de la République. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'en convoquant de manière régulière ces valeurs, ces principes, sans forcément toujours trop les interroger, d'être uniquement dans une forme de mystique républicaine, dans une pensée magique qui se suffirait à elle-même et dont on s'interdirait de remettre en débat les grandes notions, même si effectivement liberté, égalité, fraternité, on se dit que c'est quelque chose qui n'a pas forcément besoin d'être contesté, mais peut-être que si un peu.
Si, mais c'est parce que la tendance actuelle, c'est le verbiage quand même. Donc beaucoup de les mots sont vidés de leur sens, utilisés à tort et à travers. Je crois qu'il y a un risque, effectivement. Votre idée de religion est très bien, parce que d'une certaine manière, la République, la chose publique en France, c'est une sorte de cathédrale. Je dirais presque une église. Et puis la République, lorsqu'elle devient une sorte de série de mots, de valeurs diluées, ça va plutôt vers la secte, vers le temple et la secte. Donc vous n'avez plus ce côté structurant, une certaine grandeur et une certaine force qui est quand même ce qui fait tenir ensemble ce que Brodel appelait les tissus dont la France est cousue.
Il peut y avoir une approche sectaire de la République aujourd'hui, et si oui, vous l'identifieriez où ça ?
Oh ben, il y en a toujours eu. Il y a le petit père Combes, au moment des combats entre l'État et l'Église au début du XXe siècle, était incontestablement sectaire, parce qu'il avait une vision d'hostilité directe. C'était pas beaucoup plus que la laïcité.
Oui, c'est ce qui peut être reproché aujourd'hui à certains membres lors du printemps républicain, à qui on reproche une vision peut-être un peu trop fermée de ce que serait la laïcité. Alors même si je sais que quand on parle de laïcité et qu'on y accole des adjectifs, ça fait l'objet là aussi de débats assez intenses. Mais...
Non, ce qu'il y a, je pense que comme toujours, lorsqu'on évoque des principes, il faut voir les faits institutionnels. Est-ce qu'on peut rester aujourd'hui dans un schéma institutionnel qui était celui de la loi de 1905, alors que le paysage religieux, la société française sont complètement différents? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée, qui est une question que le politique se pose. Et évidemment, ça, pour le coup, pousser les hauts cris en invoquant une sorte de laïcité intégriste, ça peut paraître quelquefois un petit peu décalé. Il y a une réalité dont il faut tenir compte. Encore une fois, ce qui compte, au-delà de la question de la laïcité, du religieux, du rapport religieux, c'est comment on conçoit la France. Qu'est-ce qui fait tenir la France ensemble? Et donc, comment on doit définir la politique, les politiques publiques vis-à-vis des religions, vis-à-vis d'un certain nombre de grandes questions de politique publique, vis-à-vis de la décentralisation? Voilà. Est-ce qu'on considère que le modèle français, qui est un modèle qui s'est constitué de manière volontaire, très volontariste, autour de l'État d'ailleurs, est un modèle qui est périmé, et maintenant on va vers des Frances qui se disloquent, des Frances riches, des Frances pauvres, des communautés, au lieu d'une société qui tient ensemble. Je pense que c'est un vieux problème et qui devient de plus en plus aigu chaque jour.
Ce modèle français, Arnaud Tessier, est peut-être assez compliqué à définir, quand on est soi-même français, parce qu'on a parfois aussi du mal à en définir les grandes lignes. Peut-être qu'il faut se tourner du côté de ceux qui ont vocation à intégrer la communauté française, c'est-à-dire les étrangers qui font la démarche de l'intégration pour acquérir notamment la nationalité. Il se trouve qu'il y a eu un rapport, là aussi il y a quelques jours de cela, qui a été présenté par un des députés de La République En Marche, Aurélien Attaché, sur justement la politique d'intégration, avec notamment l'idée d'augmenter assez considérablement toute la partie de l'enseignement physique pour réellement apprendre la France, c'est ce qu'il dit, à travers notamment l'apprentissage des valeurs républicaines. Est-ce qu'historiquement, il y a aussi dans cette idée de principe républicain, de républicanisme, l'idée d'une dimension presque civilisatrice?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, une forme de religion civile. L'État s'est en substitué en quelque sorte à l'Église au cours du 19e siècle. Le service militaire, à la fin du 19e siècle, avait clairement cette intention. C'était aussi un outil d'intégration, ça a été dit dès l'origine. Et il est vrai que si vous voulez intégrer des populations qui ne partagent pas notre culture à l'origine, il faut leur proposer un modèle auquel s'intégrer. C'est ça toute la question. On n'intègre pas. Il faut donner envie de s'intégrer. C'est-à-dire qu'il faut, il faut pas passer son temps à dire que la France, son histoire maintenant se dilue dans un ensemble plus vaste, que c'est fini, que la France n'a fait que deviner une chose dans le passé. Enfin, ça donne pas envie de s'intégrer. Il faut être clair. Alors, je dis pas qu'il faut bâtir une sorte de mythologie sans aller jusqu'à la thématique du roman national. Mais enfin, il est clair que il faut assumer un certain modèle de société, un certain modèle de démocratie, la démocratie et la République, comme avait dit De Gaulle, de façon à ce qu'on ait envie d'adhérer à cela.
Et peut-être que pour donner envie, il faut faire entendre quelques grands discours sur la République. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez où je veux revenir, Arnaud Tessier. Si, à mon avis, nous sommes le 5 mai 1992 à l'Assemblée nationale. Et c'est Philippe Séguin qui intervient. C'est juste avant la ratification du traité de Maastricht. Lui, il y est opposé et il explique pourquoi, au nom justement de ces principes qui fondent la République.
En France, la République n'est pas seulement un régime institutionnel, car la République, c'est avant tout ce système de valeurs collectives par lequel la France est ce qu'elle est aux yeux du monde. Il y a une République française comme il y eut une République romaine. Depuis l'origine, sa maxime est la même: la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice. Elle est inséparable de la dignité de la personne humaine et de son émancipation, de l'état de droit, de l'équité et de l'égalité des chances. Elle est inséparable de la solidarité nationale, de l'ambition collective nationale, de l'esprit national, de l'indépendance nationale. Elle est inséparable de l'État qui, en son nom, doit arbitrer, rendre la justice, attaquer inlassablement les privilèges, combattre les féodalités, accorder la primauté aux mérites et à la vertu.
France Culture, midi, midi 30, vous écoutez Politique, Hervé Gardette.
Et nous parlons aujourd'hui de la religion de la République en compagnie de l'historien Arnaud Tessier. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à cette définition tout de même assez complète de ce qu'est la République qu'on vient d'entendre avec Philippe Séguin?
Assez complète, oui. Et je veux dire que dans cette affaire du traité de Maastricht, ce qui a surtout mobilisé Philippe Séguin, qui n'était d'ailleurs pas anti-européen dans le fond, c'était surtout que c'était un traité qui allait transformer profondément la nature de l'Union européenne et qui allait engager de manière irréversible la France sur une voie totalement différente. Et on ne voulait pas faire de référendum, on voulait faire passer ça en catimini. Et il disait, sur quelque chose d'aussi fondamental, il faut consulter le peuple. Ce qu'il a obtenu, d'ailleurs, non sans mal. Donc je crois qu'il y avait cette dimension aussi qui prouve que pour lui, la République, c'est aussi une démocratie. Gouvernement et une démocratie.
Dans ce qu'il explique, dans ce qu'il détaille, justement, dans cette archive qui date, je le rappelle, de mai 1992, est-ce qu'il y a des éléments dans lesquels on pourrait ne pas se reconnaître aujourd'hui? Enfin, je pense en particulier aux formations politiques qui existent. Ou bien est-ce que ce sont des valeurs et des principes qui vous paraissent universels, c'est-à-dire pour lesquels on ne pourrait pas dire, ben tiens, tel parti ne rentre pas dans cette case-là, dans cette définition-là?
Je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui combinent différentes traditions politiques. C'est pour ça d'ailleurs que Philippe Séguin se définissait comme un gaulliste. C'était le gaullisme étant lui-même non pas seulement quelque chose qui s'attache à un homme exceptionnel, mais un courant de la tradition française, cette idée, encore une fois, que Brodel, qui n'était pas gaulliste à ma connaissance, disait, hein, des tissus cousus ensemble. Et la France est une chose fragile, mais qui en même temps porte une histoire et une ambition pour l'avenir, et un projet collectif. Je crois que cette idée de projet collectif, elle n'est pas partisane. Pour autant, Philippe Séguin ne considérait pas que la gauche et la droite étaient appelées à disparaître. Il pensait que c'était le rôle du président de la République en particulier de regarder au-delà des partis. Mais il savait qu'il y a des combats politiques. Et ce qu'il définit comme étant la République, il y a évidemment, que l'on soit de droite ou de gauche, des éléments sur lesquels on met plus l'accent que d'autres. Mais ce qui quand même manque tragiquement dans la politique française à droite, comme à gauche aujourd'hui, et ça apparaît très clairement dans le discours de Philippe Séguin. D'abord, c'est cette insistance sur la notion de souveraineté, qui, je le disais, chez Jean Bodin, est la définition même de la République. Comment ça marche, le partage de souveraineté en Europe? Jusqu'où il faut aller? Ce sont des vraies questions. Ou est-ce qu'il faut transférer tout à l'Europe? Mais alors, que reste-t-il de la démocratie? Et puis, deuxième élément, c'est l'État. Chercher le mot « État » dans les discours de tous les partis politiques aujourd'hui. Prenez une loupe, et une forte.
Alors justement, si ces notions de souveraineté et d'État sont ce point central pour vous, Arnaud Tessier, dans la définition de ce qu'est la République, est-ce que vous considérez que ces formations partisanes qui revendiquent dans leur nom le terme de républicain, les républicains, donc ancienne UMP, la République en marche, sont peut-être légitimes à utiliser ce terme, et quel est l'intérêt de le faire, si ce n'est quoi? Alors, pour se distinguer de ceux qui ne le font pas et qui seraient de moins bons républicains?
Vous savez, je crois qu'on est revenu depuis un certain nombre d'années, c'est pas seulement les formations que vous venez de mentionner, hein, ça fait une trentaine d'années qu'on est revenu à une sorte de réapparition sournoise de la Troisième et de la Quatrième République sous les habits de la Cinquième République. Sous la Troisième République et la Quatrième, vous avez d'innombrables formations, les républicains de gauche, le centre républicain, enfin, le mot républicain aussi était mis à toutes les sauces, parce que il était universel et ne signifiait pas grand-chose dans le cadre d'une politique partisane.
Donc je pense... Aujourd'hui, il ne signifie pas plus quand on s'appelle les républicains, quand on s'appelle la République en marche?
La République a toujours... Il y a quand même, derrière le mot République, De Gaulle l'a dit d'ailleurs en 58 quand il est venu présenter la Constitution, place de la République, il y a une dimension historique. Le mot République suscite toujours l'idée d'énergie. La République, c'est un mouvement historique qui part de la Révolution française, qui va traverser le 19e siècle. On pense à Jules Ferry, on pense... Voilà. Ça c'est vrai. Donc, le mot République continue d'exercer une certaine fascination. Et je pense, il faut faire crédit à un certain nombre de gens qui s'engagent en politique, je pense qu'ils ne sont pas étrangers. Enfin, ils ne sont pas insensibles à cela. Mais enfin, ensuite, ça s'épuise vite. Parce que derrière, concrètement, ce qu'on met derrière la République, les choses solides, quelles sont les positions des partis politiques là-dessus? Et là, ça devient beaucoup plus flou. On se met à parler de choses, de domaines d'action, de réformes, mais on ne parle pas de choses aussi fondamentales que, encore une fois, l'État. Quelles doivent être les limites de l'État? à quoi servent les fonctionnaires, au lieu de toujours accabler les fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Dans un pays quand même, ça me frappe à chaque fois, qui il y a encore peu de temps était sous état d'urgence, depuis 2 ans, qui a voté à la présidentielle et législative sous état d'urgence. C'est la République dans son extrême. C'est le salut public. Donc, tout ça, ça ne suscite pas de réflexion. Quelles sont les frontières du régalien? Qu'est-ce qui est régalien qui ne l'est pas aujourd'hui? Il y a un vrai sujet.
Alors comment est-ce que vous expliquez, Arnaud Tessier, que la centralité de l'État, le rôle des fonctionnaires, le domaine du régalien, qui sont des notions alors qui ne sont bien sûr pensées par la droite, mais qui sont aussi quand même pensées énormément par la gauche, que ça ne se traduise pas justement dans la revendication du terme républicain à gauche. C'est quand même très très rare, ça ne l'a peut-être pas été par le passé, mais aujourd'hui c'est quand même plus, on va dire, au centre et à droite qu'on affiche justement cette identité républicaine.
À mon avis, il y a deux raisons. La première raison, c'est que on n'y pense même plus. On n'y pense même plus parce que le niveau du débat d'idées dans les partis politiques, que ce soit à droite comme à gauche, c'est quand même beaucoup exténué au cours des dernières années. Et un phénomène comme les primaires a été une machine quand même à laminer l'esprit, qui a eu un rôle considérable. Tous ces petits personnages alignés qui disaient à peu près la même chose dans les mêmes costumes, c'était quand même un peu terrible. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que c'est pas très bon pour la com de parler de l'État et des fonctionnaires, sauf dans un certain sens. C'est pas très très bon pour la com, c'est pas quelque chose de... alors que c'est un sujet considérable. Et puis les fonctionnaires, il faut leur parler, pas forcément pour leur dire des choses aimables, pour leur dire, vous allez en baver, on va vous demander des efforts considérables, mais vous êtes essentiels, on a besoin de vous pour ceci, pour cela. Donc je crois que c'est considéré par les communicants comme pas terrible et que donc, si vous ajoutez à cela l'ignorance ou l'indifférence, tout ça disparaît du champ. Or, cette fameuse France périphérique qui existe, elle ne tient pour le coup que par l'État. Et aujourd'hui, beaucoup de choses, surtout dans une situation quand même qui reste très tendue, malgré la levée de l'état d'urgence, la France tient énormément par l'État, par la puissance publique sous toutes ces manifestations. Non seulement la sécurité, mais pas seulement, l'enseignement, les hôpitaux, enfin voilà.
Il y a une notion que vous n'avez pas prononcée pour l'instant, enfin sauf erreur de ma part, c'est le terme d'autorité. Est-ce qu'on peut aussi voir justement aujourd'hui dans la façon dont on revendique ou pas justement ce terme de républicain, cette appartenance à un républicanisme, des conceptions qui pourraient varier selon qu'on pense que l'État doit faire preuve d'autorité ou peut-être... ne pas justement être trop dans cette dimension-là.
C'est vrai, l'autorité va avec la vision traditionnelle de l'État. Jules Ferry, Gambetta, ils étaient d'ailleurs quelquefois très critiqués dans les rangs des républicains à cause de leur dimension un peu trop autoritaire. Le parlementarisme n'aime pas les figures un peu fortes. Bon, De Gaulle, et il est vrai qu'il y a d'autres traditions qui ont mis en œuvre, en particulier dans les années 90 et 2000, cette notion de gouvernance, où on dit finalement l'intérêt général... Ouais, ça existe, mais l'intérêt général, c'est le produit d'une sorte de poids et de contrepoids entre les différents acteurs de la société. En réalité, c'est la loi du plus fort, la gouvernance, quand on l'interprète comme ça. Mais l'idée qu'il y a un pouvoir d'arbitrage, si vous prenez l'exemple de l'environnement, de l'écologie, il est évident que si on veut avoir une politique écologique volontaire et résolue, il va falloir l'exercice d'une autorité très ferme, parce que ça va à l'encontre des intérêts individuels, de certains intérêts des entreprises. Là, l'État, il va réinvestir, il a commencé à réinvestir ce champ. S'il y a bien un sujet sur lequel l'État et l'autorité de l'État vont se révéler cruciaux dans les années à venir, c'est les grands choix écologiques.
Sauf que ces choix écologiques, ces questions environnementales, elles transcendent très largement les frontières nationales, donc les frontières de l'État. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Alors vous êtes justement intéressé au cadre peut-être trop étroit qu'est celui de la République pour gérer ces questions environnementales.
Oui, ces questions environnementales dépassent en effet les concepts associés à la République que nous connaissons, la souveraineté, la nation, sans parler aussi du temps de la politique qui est beaucoup plus court que le temps long de l'écologie. Alors j'ai interrogé Dominique Bourg, qui est philosophe et président du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, et je lui ai demandé justement si le fait de penser ces questions environnementales peut encore se faire dans un cadre républicain, donc étymologiquement dans la res publica, la chose publique.
Pour reprendre une expression plutôt de droit romain, c'est la res communis, c'est-à-dire la res chose commune, mais pour autant qu'elle n'était pas appropriable. Évidemment, le climat, autrefois, l'atmosphère, les mers n'étaient pas appropriables par les hommes. Et ça, c'est effectivement vraiment l'enjeu de l'époque, mais cela dit, c'est un enjeu politique tout à fait classique. Hein. L'enjeu politique classique, c'est comment on partage, comment on protège des biens. Dans une certaine mesure, on reste dans l'ordre de ce que la politique peut faire, mais en même temps, on a à le faire dans des conditions qui vont au-delà de tout ce qu'on n'a jamais réussi à faire en matière de politique. D'une part, il y a un aspect universel. Et deuxième difficulté, c'est qu'on doit agir à l'avance. Par exemple, si vous voulez, le climat d'aujourd'hui, c'est des émissions d'il y a 40 ans. Donc, si on n'avait pas voulu avoir la moyenne de température de 2017, ben, c'est il y a 40 ans qu'il aurait fallu y penser. Et puis, par ailleurs, eh bien, quand on n'y pense pas, justement, c'est précisément ce qu'on a fait, et d'ailleurs ce qu'on continue à faire, eh bien, il y a un jeu d'irréversibilité. C'est ce qui se passe, par exemple, avec le climat.
Et donc, autant de problématiques qui obligent aujourd'hui tous les systèmes politiques du monde à se réinventer. Et justement, n'y aurait-il pas là de quoi rénover notre République? C'est ce qui a été tenté, en tout cas en France, avec l'inclusion de la charte de l'environnement dans notre Constitution. Et au-delà de l'aspect légal, cette prise en compte des enjeux écologiques peut-elle aussi refonder une mystique républicaine? Bien, je vais poser la question.
Alors oui, d'une certaine manière, parce que la mystique républicaine, c'est quand même la mystique de l'intérêt général, et d'ailleurs c'était la mystique d'un intérêt général sur fond d'universalité. Donc effectivement, pourquoi pas, on peut arriver à se confronter à ces enjeux que si on est capable de surmonter une forme d'individualisme étroit et cynique, que si on est capable de se hisser au-delà de ses intérêts propres et immédiats, et ça, franchement, c'était l'idéal et la mystique républicaine. Donc, en ce sens-là, c'est pas complètement idiot de penser qu'effectivement, ça pourrait rénover et faire réapparaître l'aspect transcendant de la République. Entre nous, on en est loin, mais effectivement, ça n'est pas impossible, en tout cas en droit.
Voilà, le philosophe Dominique Bourg qui a dirigé un dictionnaire de la pensée écologique publié en 2015 aux Presses universitaires de France.
La pensée écologique comme élément de rénovation de la pensée républicaine, Arnaud Tessier?
Pas de rénovation. Il faut réactiver le modèle français qui est capable, tout ce que vient de dire l'intervenant qui était très juste, l'intérêt général, la capacité de décider, c'est-à-dire c'est aussi un rapport de force entre les États et des gouvernements qui gouvernent et qui essaient de coopérer entre eux. Je pense que c'est pas contradictoire avec ce que je disais sur le fait que ça devient un enjeu régalien de tout premier ordre. Oui, je pense que l'écologie, mais ça ne va pas entraîner une rénovation, parce que ça devrait entraîner une reprise en main, selon le schéma effectivement traditionnel de la République à la française, la reprise en main de ces grands enjeux qui aujourd'hui sont devenus des enjeux majeurs.
Oui, mais on peut aussi considérer que c'est pas forcément par une reprise en main de l'État de ces enjeux que ça doit passer, mais plus par une appropriation collective. Et là, il n'y a pas forcément besoin du cadre républicain pour que ça se passe.
Si, parce que alors bien sûr, on peut mettre un peu de blabla dans la Constitution qui n'entraîne aucune conséquence.
C'est le cas de la charte de l'environnement
oui,
pour vous ?
Oui, voilà. On a mis des tas de choses inutiles dans la Constitution, alors que la Constitution s'est fait pour donner au pouvoir public la capacité d'agir. C'est pas pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà quelle est notre morale, etc. Il faut être un peu concret. Pour ça, il y a les préambules et il y a les grands principes de la République. Non, je crois que c'est vraiment une question de capacité à exercer l'autorité dans un champ qui, effectivement, demande une capacité de prévision et qui demande à mettre en place des dispositifs très en amont. Ce que font d'ailleurs d'autres pays européens en écrasant un peu les intérêts individuels au profit des intérêts collectifs. Donc, il me semble que c'est tout à fait dans la philosophie de la res publica telle que déjà Jean Bodin la définissait au XVIe siècle.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud Tessier d'avoir participé à cette émission. Je rappelle donc le dernier ouvrage, la dernière biographie que vous avez signée, elle est consacrée à Philippe Séguin, Le remords de la droite. Vous l'avez publié il y a quelques semaines de cela, c'était aux éditions et c'est toujours aux éditions Perrin. La politique, c'est une émission préparée chaque semaine par Antoine Dulster, réalisée par Véronique Villa, mise en ligne par Prune Saez, avec à la prise de son Élise Le. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr.